pureté. Pureté, pureté. Les Presses universitaires de Rennes vous offrent le thé et ses auteurs sur un plateau d'argent. Tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque universitaire centrale et le jeudi à 17h sur Syllabe.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de l'émission des Presses universitaires de Rennes, nouveau rendez-vous sur Syllabe tous les jeudis à 17h, qui rediffuse notamment les Cafés Purs qui ont lieu tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque universitaire centrale. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en mesure techniquement de vous donner un son suffisant pour cet événement avec Denis Rodriguez. Denis Rodriguez, auteur d'un ouvrage « L'Espagne sous le régime de Franco ». C'était un entretien passionnant, mais rassurez-vous, nous avons eu l'occasion de l'avoir ici dans nos studios à Syllabe, donc vous allez pouvoir profiter tout de même de son savoir et de cet ouvrage publié aux Presses universitaires de Rennes. Nous sommes aujourd'hui avec Denis Rodriguez qui nous présente son ouvrage « L'Espagne sous Franco », un ouvrage tout récemment sorti. Vous avez pu le lire au départ, un véritable effort d'exhaustivité car c'est l'ouvrage que vous auriez aimé trouver en tant qu'étudiant. Ça a été donc un très très gros travail. L'exhaustivité, c'est un concept qui vous parle dans ce travail universitaire ?
On n'est jamais exhaustif. Je veux dire que sur la dictature du général Franco et sur tout régime politique, il y a encore à dire, il y aura encore beaucoup à dire. Non, j'ai essayé simplement dans cet ouvrage-là de rassembler les informations les plus importantes, qui me semblent les plus importantes, autour des principales questions posées par n'importe quel régime politique. En l'occurrence, la dictature de Franco, mais je pense que les questions auxquelles je tente bien modestement de répondre dans cet ouvrage-là sont des questions qu'on peut poser autour ou à propos de n'importe quel régime politique. Des questions politiques, des questions économiques, des questions sociales, des questions culturelles, et puis même l'attitude que les uns et les autres peuvent avoir à l'égard de ce régime-là, l'opposition par exemple.
Oui. Alors comme c'est un ouvrage très dense, on ne va pas pouvoir tout aborder, on reviendra sur l'aspect culturel, mais avant tout ça, je voudrais savoir, un petit peu comprendre la différence entre la force et la puissance de cette dictature qui tranche complètement avec la personnalité finalement de Franco, plutôt effacée.
Oui, en réalité, ce qui assure la longévité du régime de Franco, c'est une violence inouïe. Mais pas seulement. C'est aussi le fait qu'il ait réussi à légitimer sa présence à la tête de l'État après une guerre civile dont il est sorti victorieux. Et ça, c'est important de rappeler cela. C'est-à-dire que sans la guerre civile, Franco n'existe pas. Il est quelqu'un qui compte dans l'armée espagnole des années 20, des années 30. Il sera même chef d'État-major. Mais politiquement, c'est quelqu'un qui n'existe pas. Il va commencer à exister à partir du moment où il va rejoindre la conspiration qui va déboucher sur le coup d'État du 18 juillet 1936. Il va commencer à exister à ce moment-là parce que non seulement il rejoint la conspiration, mais en plus il en prend la tête assez rapidement. Mmh. Et dès le début, il a compris que s'il veut tirer profit de ce contexte particulier-là, il faut d'abord gagner la guerre, bien entendu. Mais il a un deuxième objectif, puisque pendant qu'il fait la guerre, et on voit assez vite, assez rapidement qu'il est envisageable qu'il la gagne, il crée son propre régime. C'est-à-dire qu'il a été suffisamment habile pour que, fin septembre 1936, lui soit confié non pas seulement les fonctions de généralissime, qui lui donnent autorité sur l'ensemble de l'armée, mais également les fonctions de chef de l'État. Et dès le début, il se comporte comme un chef d'État. Mais ce que les Espagnols ne savent pas, y compris ceux qui le suivent, c'est que c'est le chef de son État. Ce n'est pas le chef de l'État espagnol historique, c'est le chef de son État. Il va créer un État autour de sa personne.
Et c'est cette structuration de ce régime-là qui explique la longévité aussi de...
En grande partie, oui, bien sûr. D'abord, la défaite de l'adversaire. L'adversaire républicain, il est défait. Et il y a trois possibilités pour les républicains d'alors. Soit l'exil, soit la mort parce qu'ils sont morts pendant la guerre civile, soit la prison pendant, dans certains cas, des décennies. Donc, il a fait table rase, Franco. Et sur cette base-là, fort de cette victoire, il met en place un régime autour de sa personne, mais il en édicte toutes les règles. C'est-à-dire qu'il interdit l'existence de tout autre parti politique autre que la structure qui le soutient. Il interdit toute autre forme de syndicalisme que celle qu'il tolère et qu'il impose. Autrement dit, je l'ai dit déjà, il fait table rase autour de lui et il s'impose de cette façon-là. Et il faut dire aussi que dans son camp, c'est-à-dire dans le camp des vainqueurs, hein, il jouit d'un véritable prestige. C'est celui qui a fait gagner le camp des oligarchies, de l'anti-communisme, qui a réussi à éliminer la République et tout son appareil juridique, tout son arsenal juridique de l'histoire de l'Espagne. Non, c'est quelqu'un qui a un prestige inouï. Et il va en jouer pendant des décennies, jusqu'à se transformer même, fin des années 50, début des années 60, en une sorte de grand-père de la nation, plutôt bon enfant, et dont on ne soupçonne pas, en tout cas à aucun moment, la violence et la violence potentielle, le potentiel de violence qu'il y a chez cette personnalité-là. Vous voyez, il a créé son État, et il n'a jamais été disposé à le restituer à qui que ce soit.
Alors Daniel Rodriguez, comme vous le dites, il gérait vraiment toutes les sphères de la société. Prenons peut-être l'exemple culturel du cinéma. On voit beaucoup de cinémas d'exaltation patriotique, mais pas seulement, des choses aussi un petit peu plus folkloriques, plus populaires, un peu un cinéma d'évasion.
Oui, bien sûr, il va... Effectivement, le cinéma d'exaltation patriotique, il va jouer... effectivement, c'est un des rouages de la propagande. Ça, c'est indéniable. Mais il va s'arranger aussi pour... Il ne va pas réussir, hein. Mmh. Mais il va essayer tout de même de dépolitiser complètement le domaine de la culture en faisant en sorte que se répande sur l'ensemble de l'Espagne une culture, effectivement, ce que certains historiens espagnols appellent une sous-culture de masse, c'est-à-dire une culture du pur divertissement et une culture qui va également flatter le patriotisme, le régionalisme, le localisme et à terme l'individualisme, quoi. Donc on est en présence de quelqu'un qui, pour effectivement asseoir son pouvoir et continuer à diriger l'Espagne, va agir également dans le domaine de la culture par le biais d'une propagande incessante, par le biais de la mise en place d'une censure extrêmement féroce, mais par le biais aussi de cette culture, culture de masse, qui est une simple culture du divertissement qui ne présente aujourd'hui aucun intérêt. Pour un historien, si ce n'est le fait qu'elle ait existé, quoi. Mais il n'y a rien à en tirer, il n'y a rien à en sortir de profitable pour la construction d'une culture espagnole à venir, bien entendu.
Et ça semble être un outil pourtant assez puissant, ça fait peut-être écho à des choses qu'on peut voir à l'heure actuelle aujourd'hui. C'est une culture qui sert à endormir le peuple.
Absolument, absolument. On est tout à fait dans cette logique-là. C'est quelque chose qu'il avait compris très tôt et qu'en tout cas avait très très bien compris les gens qui le suivaient, car c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Franco a été apprécié, il a été suivi par des grands acteurs du champ culturel, du domaine culturel, des écrivains, des poètes, des dramaturges, des musiciens, des peintres, des photographes ont accompagné la dictature de Franco. Toutes les dictatures ont une base sociale, il avait une base sociale, et dans cette base sociale-là, on retrouve aussi beaucoup d'intellectuels. Mmh.
Alors les intellectuels, mais aussi le jeu, qui fonctionne très très bien, et ça de tout temps. On peut parler notamment d'une victoire de l'Espagne contre l'URSS, qui a bien été sûr. Glorifiée complètement.
Bien sûr, c'est-à-dire qu'il va se servir non pas seulement du théâtre populaire et de la chansonnette de variété, il va se servir aussi des deux sports nationaux que sont la tauromachie et le football. Mmh. Et effectivement, ça va être des espaces d'exaltation patriotique, parce qu'effectivement, il y a aussi, dans l'idéologie qui sous-tend le franquisme, le fascisme, et dans cette idéologie-là, il y a une exaltation de la virilité, et il y a une exaltation du vainqueur par rapport au vaincu, une exaltation de la force brute. Et effectivement, il va trouver cela dans la tauromachie et dans le football. Je crois dire quelque part dans mon livre qu'à un moment donné, lors d'un match de football, un article de presse dit qu'il était le meilleur des Espagnols était avec nous ce jour-là. Voilà, donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire que Franco, amateur de football peut-être bien, eh bien, il est là aussi pour acclamer l'équipe nationale, sachant très très bien que la victoire de l'équipe nationale, c'est la sienne, d'une certaine façon, d'un point de vue médiatique.
Pureté. Pureté. Découvrez tous les auteurs des presses universitaires de Rennes, chaque jeudi à 17h sur Syllab.
Ce qu'on constate d'assez intéressant, si on compare notamment à l'Allemagne, c'est qu'avec la mort de Franco, le franquisme ne disparaît pas. Vous notez que le travail psychanalytique allemand n'a pas été réalisé en Espagne.
Non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, il y a encore aujourd'hui en Espagne énormément de nostalgiques du franquisme, de beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent que la solution serait encore la restauration d'un régime de type franquiste. Mais effectivement, ce qu'il faut voir également, c'est que la situation de l'Allemagne à la fin du nazisme et la situation de l'Espagne à la fin du franquisme, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. À la fin du nazisme, l'Allemagne, est complètement détruite. Elle est complètement anéantie, complètement détruite, et tout est à refaire. Ce n'est pas du tout le cas de l'Espagne franquiste. C'est un pays... Alors évidemment, on a beaucoup glosé sur le développement économique des années 60. Je pense qu'il faut qu'il soit examiné avec beaucoup de prudence, parce que ça n'était pas ce que l'on croit. Mais ce qui est certain, c'est que les options économiques prises par Franco en 56-57, et qui portent leurs fruits à partir du début des années 60, 61 notamment, ont favorisé tout de même un développement économique du pays avec des répercussions sociales malgré tout positives. Je veux dire que, quoi qu'on dise, on vit mieux en Espagne en 1975 qu'on ne vivait en 1940. Là, les chiffres des statistiques sont là pour en parler. Donc, comparer Allemagne et Espagne à la fin du nazisme pour l'un et à la fin du franquisme pour l'autre, c'est comparer deux choses qui ne sont pas comparables. On est dans un pays totalement détruit par une folie meurtrière sans nom, et dans l'autre cas, dans une dictature de type finalement traditionnel. Des dictatures comme celle de Franco, on en a connu au XIXe siècle, par exemple. Donc c'est une dictature qui a comme pilier, effectivement, la phalange, mais qui n'est plus grand-chose à la fin du régime, l'Église, qui elle aussi prend ses distances à la fin du régime, les grandes oligarchies traditionnelles, les propriétaires terriens, les industriels, la banque, etc. Très bien, mais ce pays, malgré tout, fonctionne avec une économie, certes, dans laquelle l'État intervient, mais une économie dont le fonctionnement est de type libéral, malgré tout. Donc c'est difficile de comparer les deux. L'Espagne, quoi qu'on dise, en 1975, économiquement, elle n'est pas détruite.
Pureté. L'émission des presses universitaires de Rennes sur Syllab.
Et alors vous notez que tout au long de cette période, et surtout à la fin du franquisme, la partie démocrate, le peuple attaché à la démocratie, existe. Alors à part l'exil pendant cette période de Franco, quelle était l'option
pour survivre un peu ? Alors il y a eu beaucoup de clandestinité, bien sûr. Il y a effectivement l'exil qui est très très important, mais il y a une action clandestine. Bien entendu, il y a l'action de tous les hommes de culture, par exemple, qui vont réussir quand même à déjouer la censure et vont parvenir néanmoins à se faire publier, à se faire jouer sur les scènes de théâtre et même à tourner des films. Il y a des films tournés dans les années 50 qui sont des charges virulentes contre le franquisme, mais c'est fait de façon tellement habile, tellement subtile et souvent avec tellement d'humour que ça passe et que les censeurs ne se rendent compte de rien. Et on voit la même chose en poésie, en littérature. Les années 50, par exemple, qui sont encore des années féroces en Espagne, vont être l'occasion pour beaucoup d'intellectuels, écrivains, poètes, dramaturges, de s'engager politiquement et de dénoncer les effets pervers de la dictature, mais avec beaucoup d'habileté, beaucoup de subtilité. Le travail d'écriture va compter énormément chez eux, quoi. Et puis, effectivement, il y a tout le travail de sape aussi qui est réalisé de façon tout à fait clandestine, parce que le régime a beau exister, les Espagnols comprennent très très vite qu'il n'évoluera pas, il ne bougera pas, et donc ils vont se mettre à vivre en parallèle. Ils vont créer une sorte de société espagnole parallèle, clandestine. Il y a dans l'Espagne d'aujourd'hui, d'ailleurs encore, une économie parallèle, une économie souterraine. Mmh. Bon, ça commence très tôt, ça commence dans les années 50 et 60, et on se débrouille, on fait ce qu'on peut, quoi. Donc on voit un régime politique raide, figé, dont on sent bien qu'il ne va pas évoluer, dont on voit bien avec les personnalités de Franco que seule la mort du dictateur permettra de changer les choses. Ça ne les empêche pas d'agir. Je veux dire que à la fin des années 60, par exemple, et au début des années 70, l'Espagne est dans la rue. L'Espagne du travail est dans la rue. En 1962, par exemple, il y a des grèves massives dans les Asturies, au Pays Basque, en Catalogne, et le pouvoir perd la main. Il aura beau réprimer. Il aura beau réprimer. Le développement économique est engagé, et il y a un bras de fer qui se réalise entre le dictateur et les ouvriers, qui fait que les ouvriers comprennent très très bien que ce sont eux qui font marcher la machine économique. Mmh. Et donc le régime, il est bien obligé d'en tenir compte. Il se dit que s'il réprime beaucoup trop, la machine économique qui lui assure sa longévité va cesser de fonctionner, ou en tout cas va cesser de fonctionner avec des taux de croissance assez vertigineux, qui nous feraient rêver aujourd'hui du genre 6 ou 7%. Quoi. Mmh. Donc il y a un rapport de force qui me semble s'inverser dans les années 60 à la faveur du développement économique que l'on observe, qui n'est pas aussi important qu'on le croit, qui est simplement, me semble-t-il, la récupération d'un retard considérable, mais un développement économique qui va permettre d'inverser la tendance et qui va faire que les ouvriers, les salariés en général, les paysans aussi, vont reprendre la main, vont reprendre l'initiative et apparaître comme une force avec laquelle il va falloir compter. D'autant que, parallèlement à tout ça, il y a une opposition qui n'a pas cessé d'exister, une opposition monarchique. Il y a une opposition socialiste, il y a une opposition communiste, il y a une opposition anarchiste. Il y a aussi un phénomène que l'on voit renaître au début des années 60, c'est la contestation féminine. Les femmes se réveillent à ce moment-là et commencent à remettre en cause le statut qui leur a été infligé de femme au foyer, ange du foyer, disait-on. Hein. On parlait d'elles comme les anges du foyer, hein, qui n'étaient là que pour assurer la bonne tenue de la maison, s'occuper du mari et des enfants. Au début des années 60, on voit renaître dans la clandestinité des associations féministes, clairement féministes. Et au début des années 70, c'est une évidence. Enfin, les féministes sont dans la rue, comme les ouvriers, comme les paysans et comme beaucoup d'employés.
L'Espagne, sous le régime de Franco, aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup, Denis Rodriguez.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli et de, me donner l'occasion, de m'avoir donné l'occasion de parler de ce livre-là. Merci infiniment.
Pureté. 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 Les presses universitaires de Rennes vous offrent le thé et ses auteurs sur un plateau d'argent. Tous les mardis à 12h30 à la Bibliothèque Universitaire Centrale et le jeudi à 17h sur Syllabe.
Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette deuxième émission des presses universitaires de Rennes. On monte en puissance tranquillement, vous les retrouvez au Café Pur, bien entendu, le mardi, tous les mardis, à 12h30, avec à chaque fois de nouveaux intervenants, tous plus passionnants les uns que les autres. Dépêchez-vous, souvent arrivés à l'heure, parce qu'il n'y a pas toujours de la place pour tout le monde. Je vous remercie encore de nous avoir suivis, et à très bientôt sur Syllabe.